Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Restons courtois, Pierre-Alexandre Bouclet.
Oui, restons courtois avec votre serviteur. Donc, et nous passons maintenant à notre rendez-vous de la réinformation et on revient sur le sommet de la remigration de Porto. Alors, après Milan en 2025, donc c'est donc le Portugal qui accueillait samedi 30 mai l'édition 2026 du sommet de la remigration, un colloque donc organisé par différents mouvements patriotes européens. Et nous y avions une envoyée spéciale, Maëlys Clauzel, et nous avions aussi notre vedette locale, puisque le Figaro note que donc, le premier sommet avait été soutenu par l'essayiste Jean-Yves Le Gallou, l'un des théoriciens phares de la remigration. Ça c'est Blast. Moi j'ai trouvé que l'essayiste Jean-Yves Le Gallou c'était neutre, et moi je trouvais bien théoricien d'extrême droite. Je suis plus content et fier d'être ami d'un théoricien d'extrême droite que d'un essayiste. Donc et par contre, j'ai trouvé dans Blast, parce qu'on n'est jamais déçu avec nos amis, que vous étiez donc le théoricien phare de la remigration.
Théoricien, ça fait peur.
Donc c'est quand même mieux.
Ça fait Renaud Camus, quoi.
Voilà. Et donc, ancien membre du Front National, devenu Rassemblement National, pour ceux qui l'ignoraient, conseiller politique d'Éric Zemmour, fondateur du cercle de réflexion d'extrême droite Iliade, et inventeur de la préférence nationale et défenseur de la théorie du grand remplacement. Et vous étiez donc l'invité d'honneur des deux éditions du Sommet. Pas mal quand même. C'est bien de le rappeler aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'il y a des gens bien chez nous, il y a des stars. C'est pas n'importe qui, parce que nous, Jean-Yves Le Gallou, on l'a toutes les semaines. On l'a pas une fois par an dans un colloque. Donc, merci d'être avec nous.
Pas besoin d'aller à Porto, il suffit d'ouvrir la radio.
Alors Maëlys, vous étiez donc là-bas, on va écouter un son que vous avez produit. On écoute un petit son et puis vous le commentez après si vous voulez bien.
Radio Courtoisie, toutes les droites, tous les talents.
Je suis vraiment ravi d'être ici parce que ce mouvement est quelque chose qui se produit en même temps des deux côtés de l'océan, aux États-Unis et en Europe. Et je pense que l'une des raisons pour lesquelles je trouve cela très spécial d'être ici, c'est parce que c'est l'un de ces sujets sur lesquels nous sommes parfaitement alignés avec l'Europe. Plus nous serons nombreux, plus ils seront obligés de nous parler. Avec 1 million de personnes sur cette plateforme de campagne que nous préparons, avec une équipe dédiée d'éditeurs et de codeurs, ce sera la première étape pour devenir un lobby puissant et influent. Et nous avons déjà beaucoup de premiers signataires qui soutiennent cette pétition en ligne.
Alors Martin, sans plus tarder, devrions-nous demander à tout le monde de venir à l'assaut et de signer le Save Europe Act ?
L'immigration représente en ce moment la plus grande menace pour nos pays, à la fois en Europe et aux États-Unis. Donc la réémigration est la plus grande solution à cette plus grande menace.
Alors, Maëlys Clauzel, donc on vient d'écouter un petit résumé des interventions que vous avez pu récolter à ce sommet de la remigration à Porto. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu quelle était l'ambiance et est-ce que vous y avez vu ou redécouvert ?
Eh bien, justement, Pierre-Alexandre, c'était tout à fait donc un grand rassemblement de patriotes européens qui sont évidemment favorables à la remigration. Nous avons tout un panel de différents porte-paroles qui étaient donc sur place. Donc Jean-Yves Le Gallou, hein, on le rappelle, notre porte-parole français, mais aussi Martin Selner, que les auditeurs connaissent certainement, que j'ai interrogé il y a quelques temps. Eva Vlant.
Vous avez été dénoncé dans Blast aussi.
Ah bon ? Oui, ah, j'ai été dénoncé. Ah ben, oui. Vous me l'apprenez. Vous me l'apprenez, Pierre-Alexandre. Je vais bien dormir ce soir. Merci aux camarades de Blast pour cette petite info. Bien, écoutez, oui, voilà, c'était un grand rassemblement donc, de patriotes européens. Il y avait tous les âges, mais il y avait surtout une grande jeunesse, une grande partie qui était assez jeune et donc tout à fait favorable à cette solution.
Combien de personnes à peu près donc,
alors, environ 600 selon les organisateurs. Donc, c'est déjà beaucoup plus par rapport au sommet de l'an passé. Donc, ça montre bien que que ce thème intéresse de plus en plus les gens et que c'est un thème qui devient de plus en plus bien banalisé, si j'ose dire, et surtout viable pour l'Europe.
Et alors, qu'est-ce qu'on a pu y écouter? Qui a pris la parole et pour dire quoi, surtout? En introduction, je plaisantais un petit peu en parlant des solutions, c'est-à-dire est-ce qu'il faut tous les renvoyer d'un coup ou au fur et à mesure? Est-ce que c'est avec un billet ou avec un coup de pied aux fesses? Quels sont les grands thèmes qui ont porté ce colloque?
Eh bien, alors, remigration un petit peu sur tous les aspects. Déjà, oui. Définir exactement ce que c'est, puis surtout, comment l'institutionnaliser. Parce que c'est une solution qui, aujourd'hui, voilà, est un petit peu le vivier de grands fantasmes, notamment de la gauche. Hein, voilà, on nous explique qu'il y avait toujours plein de néo-nazis. Voilà,
ah, c'est ce qu'ils disent, oui.
Ah oui, non, mais oui. ça c'est du typique.
Ils disent que ce sont des néo-nazis dans des fauteuils en velours rouge. Alors, je ne sais pas si les fauteuils étaient rouges.
Eh bien, écoutez, figurez-vous que les chaises étaient
plus,
blanches. Voilà, elles étaient blanches, les chaises. Donc, même pas rouges, je ne sais pas si je sais pas où est-ce qu'ils les ont vus, mais non, c'était surtout le thème majeur. Ben évidemment, c'était la remigration, et c'était surtout la remigration. Qu'est-ce qu'elle pourrait donner dans tous ces pays européens, puisqu'on avait vraiment toutes les nationalités, en tout cas européennes et occidentales, parce qu'on avait aussi
des
Américains, comme Monsieur Bovino, Grégory Bovino, que nous avons entendu là il y a quelques temps, également donc Martin Selner, évidemment, Eva Vlaardingen-Brock, Jean-Yves Le Gallou, Lucy White du Royaume-Uni, qui est une rescapée des grooming gangs notamment, des militants venus donc de toute l'Europe, des militants identitaires notamment, des élus aussi du Parlement européen, puisqu'ils n'étaient pas très nombreux, hein, les élus institutionnels, si j'ose dire, hein, ils sont toujours très frileux de ce genre de choses, mais on avait un élu qui vient de Slovaquie, voilà, donc qui lui était présent et a fait un discours qui était assez frontal et tout à fait plaisant.
Sans toute objectivité journalistique.
Évidemment, bah oui, on est sur Radio Courtoisie.
Jean-Yves Le Gallou.
Oui, moi je crois que par rapport à l'an dernier, il y avait une représentation d'élus que j'ai trouvé plus importante.
Oui, ceux de la FD.
On a eu notamment, par visio, c'est vrai, on a eu l'Italien Vannacci, qui est député européen assez radical, effectivement, et aussi par visio, Björn Höcke, qui est le patron de l'AFD en Thuringe, et donc qui a la vocation à être le prochain ministre-président de Thuringe, si les règles démocratiques sont respectées en Allemagne, et qui a tenu un discours extrêmement mesuré, en expliquant que eux déjà, en Thuringe, ils participaient à la bataille parlementaire pour préparer en quelque sorte la rémigration, ou en tout cas limiter les mesures favorables aux étrangers qui peuvent être pris, en tout cas dans le cadre de Solland. Voilà. Et il y a eu aussi une députée néerlandaise, je crois, une autre députée allemande du Land de Brandebourg. Il y avait quand même, je pense, une plus grande part. Il y avait à la fois les influenceurs, qui s'appellent les activistes dans le vocabulaire germano-britannique, mais il y avait aussi un certain nombre d'élus. Il y avait aussi une députée espagnole, d'élus donc appartenant à des partis puissants, s'agissant notamment de l'AFD, ou très bien représentés dans leurs différents pays. Quoi. Donc c'est un thème qui est sorti du milieu identitaire et qui commence à irradier l'ensemble de la société politique européenne, avec un petit retard pour la France, mais enfin, on va essayer de rattraper tout ça.
C'est un peu ce que je voulais évoquer, parce que Éric Zemmour avait évoqué, s'il était élu, la création d'un ministère de la remigration. Au Rassemblement national, en revanche, on considère que ce n'est pas un sujet à l'ordre du jour, et je pense qu'on est encore plutôt dans des logiques d'assimilation, de maîtrise des flux. Est-ce qu'en Europe, on a des politiques qui assume des partis, on va dire, du niveau du Rassemblement national qui assument l'idée de la remigration, ou ce qu'on peut dire poliment, l'inversion des flux migratoires?
Bien, à part finalement l'AFD et quelques pays européens, notamment dans quelques parties de pays européens comme Restore Britain par exemple, il y en a enfin, majoritairement peu, hein, je veux dire, voilà, par exemple...
Il y a le parti autrichien aussi.
Le parti autrichien, oui.
Autrichien.
Par exemple, le parti Chega n'était même pas présent au sommet. C'est le parti de droite nationale du Portugal, voilà. Mmh. Donc, il y a quand même, malheureusement encore, je trouve, trop peu de partis qui donc admettent cette solution et qui la prônent dans leurs différents programmes, puisque bon, ils essayent toujours de dire qu'ils veulent l'arrêt de l'immigration, mais sans parler de remigration, ça me paraît quand même assez complexe.
Et sans parler du contexte, enfin, du cadre concret, quoi. C'est-à-dire que là, est-ce qu'on a parlé du cadre concret? C'est-à-dire, est-ce qu'on a dit, voilà, ça va se passer comme ceci ou comme cela? Est-ce qu'on a donné une échéance? Est-ce qu'on a dit, ça sera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 800 ans, comme les Espagnols?
On fera ça à Paris le 31 octobre.
Ah oui, alors ça, c'est vrai, vous avez annoncé Jean-Yves Le Gallou à...
Mais si vous voulez, je crois que l'idée objectivement, c'est de faire avancer la thématique et objectivement le comment il vient en second plan. Si on ne dit pas pourquoi il faut le faire, pourquoi il est légitime de le faire, on ne trouvera jamais le moyen de le faire. Donc si vous voulez, le comment, il faut dépasser les aspects proprement techniques. Je crois que l'idée, par contre, les populations concernées ont été évoqués, c'est-à-dire, on va dire un peu dans l'ordre, qui est concerné, les clandestins, et ça fait quand même beaucoup de monde dans beaucoup de pays, les délinquants, ça fait aussi beaucoup de monde dans beaucoup de pays, et puis c'est stratégique les délinquants, parce que c'est eux qui pourrissent la situation de tout le monde, et le troisième élément, ceux qui vivent de l'aide sociale, c'est-à-dire ceux qui n'apportent pas de contribution positive au bien-être général, mais ceux qui dégradent des conditions générales. Après, il y a effectivement le problème qui est plus délicat, mais qui n'est pas à traiter en priorité, le problème des binationaux inassimilés et hostiles. Sachant que sur le plan des modalités pratiques, avant de parler des modalités pratiques, la vraie question, c'est de savoir si le peuple est directement par référendum ou par les parlementaires reprend le pouvoir, ou si on continue de laisser les juges fonctionner. Je dois dire que, s'agissant des élections françaises, quels que soient les candidats qui parlent de mesures sur la remigration, s'ils ne disent pas comment ils reprennent le pouvoir sur le Conseil constitutionnel, tout ce qu'ils disent n'a absolument aucune valeur. Même les mesurettes proposées par M. Attal ou M. Philippe n'aura aucune chance d'être mise en œuvre.
Arthur Vatrigan.
Est-ce qu'il y a des pays qui, à défaut de promouvoir ou de brandir le mot remigration, ou la théorie complotiste d'extrême droite, la pratique, je sais pas, la Suède, Danemark
Un peu le Danemark. Un peu le Danemark. Je crois d'ailleurs que le troisième sommet de la remigration aura lieu dans un pays scandinave. Parce qu'effectivement, le Danemark contrôle les choses, en tout cas... il n'accepte plus que quelques centaines de droits d'asile, ce qui est quand même un changement radical par rapport à ce que les autres pays connaissent. Et la Suède, ils sont en train de cheminer vers une réforme du code de la nationalité qui prévoit des cas de déchéance pour les pays nationaux. Dans le cadre d'une alliance, non pas de gouvernement, mais d'assemblée, entre les partis conservateurs et les démocrates suédois. Donc pour le moment, ceux qui ont été le plus en avant vers une immigration à tout va dans les années 90-2000, ce sont les Scandinaves, et ceux qui aujourd'hui reviennent le plus sérieusement, c'est je crois les Scandinaves, d'où l'idée, je crois, de Martin et d'Eva, d'organiser...
Donc Martin Zellner
et Eva. Alors, je ne peux pas prononcer Eva, c'est un peu compliqué.
Vlantin Gerbrouck. Voilà, je me suis entraîné avant l'émission pour dire...
Voilà, très bien, bravo Maëlys. Bon. Envisage le troisième sommet dans les pays scandinaves. Je crois que ça sera intéressant. Je ne sais pas si ça sera en Danemark ou en Suède.
Alors, avant de vous interroger, Jean-Yves Le Gallou, sur celui qu'on prépare justement en France, enfin qu'on prépare, que vous préparez... Maëlys Clauzel, est-ce que quand vous êtes là-bas en tant qu'envoyé spécial, vous voyez justement une jeunesse qui semble plus... comment est-ce que ce thème est abordé par les jeunes qui sont là-bas? Est-ce que ça fédère? Est-ce qu'ils se sentent justement inclus dans une espèce de projet porteur? Comment c'est perçu? Ou est-ce qu'ils se disent en fait on est là parce qu'il faut bien militer, mais en fait on n'y croit pas?
Non, non, il y a une vraie fraternité entre toutes ces jeunesses qui viennent de toute l'Europe. C'est franchement très, très beau à voir, puisque on voit des jeunes qui finalement sont conscients de la crise civilisationnelle qu'on est en train tous de traverser, à différentes échelles évidemment, selon les pays. Mais non, il y a une vraie fraternelle, un vrai point d'accord. Et aujourd'hui, tous les jeunes qui étaient présents, de plus en plus nombreux et de plus en plus d'accord pour s'afficher dans ce genre d'événement, puisque avant, eh bien évidemment, les jeunes en particulier étaient très frileux, puisque voilà, forcément, quand on dit qu'on est favorable à une politique comme celle-ci, eh bien, on a des chances de perdre notre travail. Donc, évidemment, ça nécessite un certain courage. Mais là, on voit qu'ils sont de plus en plus nombreux à militer sur le terrain, sur les réseaux sociaux, à faire de la métapolitique, comme on le dit. Donc, c'est vachement intéressant et c'est surtout porteur d'espoir. Puisqu'on dit souvent que les jeunes se désintéressent de la politique, mais finalement, je crois que la revanche est de mise.
Et est-ce que vous pensez qu'on peut bâtir une espèce de réseau, justement, un peu européen, d'une espèce de jeunesse de la remigration, une génération remigration ?
C'est déjà un petit peu le cas avec le mouvement identitaire.
Je vais le déposer à l'INPI, comme ça.
Le Jacques Séguélen de la remigration.
Vous disiez que c'était déjà le cas avec le mouvement identitaire ?
Oui, c'est ça, c'est déjà le cas avec le mouvement identitaire un petit peu européen. Bon, il y a des fédérations différentes dans chaque pays d'Europe, mais c'est déjà le cas. Enfin, il y a un vrai soutien entre tous les mouvements, des initiatives qui sont prises de manière très commune. Hein. Enfin, Génération Identitaire qui a été le plus gros succès d'activisme de droite dans les années, dans les années précédentes, en témoigne bien. C'est un mouvement qui après a été repris également dans les pays notamment d'Europe centrale ou de l'Est, donc en Autriche, en Allemagne également, et même au Danemark d'ailleurs. Donc c'est ce genre d'initiatives qui sont de plus en plus prises par une jeunesse qui finalement est complètement unie autour de ce thème et qui est ô combien en fait convaincue que c'est aujourd'hui la seule solution pour que l'Europe de nos enfants ressemble à l'Europe de nos aïeux.
Alors, oui. Les vieillards, excellent slogan. Les vieillards qui sont autour de la table parlent de jeunesse, mais en fait, d'un point de vue politique, ce qui est intéressant, c'est quand même le fait que des partis reprennent vos propos. Qu'il y ait une jeunesse convaincue, c'est une chose. Qu'il y ait des élus, qu'il y ait des chefs d'État, qu'il y ait des ministres, qu'il y ait des groupes de pression, c'est ça l'objectif. Et cette plateforme, notamment, qui a été évoquée dans cette minute de reportage, donc c'est un moyen d'action qui est censé.
Tout à fait. Save Europe Act. Donc c'est une initiative là.
Ça veut dire
c'est
quoi ? Oui.
Alors donc souvent c'est une action pour sauver l'Europe, si je dois le traduire littéralement, mais c'est une initiative citoyenne européenne pour le dire franchement, forcer Bruxelles à appliquer la remigration. Voilà. Donc ça a été lancé notamment par Martine et Eva comme on l'a dit, et j'invite d'ailleurs
Martin Sellner et Eva.
Eva Vlandin Gerbroek.
Si vous retrouvez comme vous parlez de Bruxelles, si vous retrouvez des discours et même je crois des textes Jean-Claude Juncker, il a un poste important à Bruxelles.
Oui.
Et ben, il a fait la promotion de la remigration 2017.
Fabuleux, vous m'avez donné
le texte. Non, mais c'est pas une blague, c'est très sérieux. Il avait expliqué la remigration, quoi, elle était morale et nécessaire. Il donnait des cas précis.
Il faut le retrouver, ça. Hein.
Ah, bah,
2017. Ouais, sinon, vous lisez l'article de l'Incorrect sur la remigration. Meilleur titre de l'histoire. Enfin, vous rappelez, remigration, sauver des vies, rentrer chez vous. 2020.
Magnifique.
Bon, vous retrouvez, je vous enverrai le magazine.
Bravo,
et
Juncker.
Il y a toutes les citations du Juncker dedans.
Excellent.
Donc Bruxelles était d'accord à cette époque-là.
Bah, écoutez, on va espérer qu'il le soit également aujourd'hui. Et puis demain.
Ah, il est plus là, le pauvre Juncker.
Voilà. Alors, je
suis là, il est pas d'accord.
Le temps passe malheureusement, mais donc j'ai appris par le Figaro que vous prévoyez donc ce prochain colloque. Alors, comment c'est né cette idée de le faire en France et...
Alors, ce sera un colloque organisé par un forum organisé par Polémia en partenariat avec le sommet, le Remigration Summit, qui seront vraiment nos partenaires très, très actifs et très proches, et une association qui est en train de se créer, fondée par. Louise Garnier, qui est intervenue, Louise Garnier de la Cocarde Sciences Po, qui est intervenue précisément à Porto et qui sera aussi avec l'association qu'elle est en train de constituer autour de la thématique de remigration en France, l'un des partenaires de ce colloque, qui aura lieu, de ce forum plus exactement, parce que le colloque ça fait un peu un télo, ce sera un télo mais pas uniquement, avec là aussi des techniciens, il y aura des parties techniques. On aura deux salles qui pourront fonctionner simultanément. Donc il y aura des partis techniques et puis des partis plus politiques avec, j'espère, des représentants des différents partis européens les plus engagés, mmh. soit directement, soit en visio. Et s'agissant des Français, j'inviterai, alors je ne sais pas s'ils viendront, bien sûr, j'inviterai tous les candidats, depuis Édouard Philippe jusqu'à Éric Zemmour. Voilà, on verra qui viendra.
Absolument. Mais et donc vous présenterez là la boîte à outils de la remigration.
On peut dire ça, oui.
Comment on les aide à retrouver leur pays?
Comment, voilà, ça fait partie du schéma. Voilà. D'accord. Donc la date, c'est à les fixer. Samedi 31 octobre. On en dira un peu plus au fur et à mesure du temps. Oui. On n'est pas obligé de désigner les cibles prématurément.
Est-ce qu'il y a des sondages qui existent sur la remigration, sur le rapatriement des clandestins, sur l'expulsion des délinquants? Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites en France récemment?
Alors, pas à ma connaissance.
Il faudrait peut-être en faire.
Ah ben, surtout au lendemain du match, là, oui, je pense que ça peut être intéressant.
Non, mais il n'y a pas de sondage spécifique, mais en revanche, il y a systématiquement des questions qui sont posées dans d'autres sondages sur la déchéance de la nationalité, le fait de renvoyer les OQTF chez eux, etc.
Mais je ne cherche pas une étude très précise avec différents cas.
Il y a des éléments épars dans plusieurs sondages qui permettent de parler de remigration.
Alors,
Il y a aussi des sondages, peut-être
une précision. Martin Zellner a annoncé la création d'un institut de la remigration qui aura précisément pour but de faire un certain nombre d'études documentaires et je pense aussi des sondages, idéalement à l'échelle de l'Europe, hein, dans le cadre de cet institut. Nous, on pourrait aussi le faire en France. Le problème des sondages, c'est que c'est vite assez coûteux, mais je pense que ce serait tout à fait...
Il faudrait voir ça avec Nicolas Pouvremonti de l'Institut des migrations, qui doit être assez au courant de ce genre de
données
statistiques.
Oui, mais alors il est sur un créneau, moi je serais tout à fait partant pour l'associer, mais il est sur un créneau un peu plus, on va dire, mainstream, si je peux dire ça, radio
grand public.
Donc faut pas le...
Voilà. Je pense qu'il y a des associations, des personnalités qui ne seraient pas opposées à financer ce genre d'études et des sondeurs qui ne seraient pas contre étudier cette question-là. C'est une question, en plus, en pleine élection, en campagne présidentielle, ça peut intéresser 2-3 personnes.
Bon. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur le sujet du sommet. Une question
à propos de technique, justement. S'il faut revoir la jurisprudence qui dit qu'à partir du moment où un OQTF ne commet pas un trouble à l'ordre public et peut être intégré en France, notamment à travers le regroupement familial, etc. Donc cet auditeur liste toutes les choses qui empêchent, en fait, qui autorise un juge français à ne pas remigrer quelqu'un quand même il n'aurait pas le droit d'être sur le sol.
L'essentiel des choses qui autorisent un juge français à ne pas remigrer quelqu'un, c'est l'interprétation qu'ils font de textes généraux et qui sont validés dans leur interprétation par le Conseil constitutionnel. Voilà. C'est-à-dire que derrière tout ça, le grand blocage, c'est le Conseil constitutionnel. Avec derrière, effectivement, les jurisprudences éventuelles de la Cour de justice européenne ou de la Cour européenne des droits de l'homme.
Alors, moi, okay.
Xavier.
Oui, je voulais revenir sur la question des sondages. Il n'y a pas de sondage proprement dit qui est demandé aux Français « Êtes-vous favorable à une politique de remigration ?» En revanche, il y a énormément de sondages qui permettent de savoir qu'une majorité, une large majorité de Français trouvent qu'il y a trop d'immigrés en France aujourd'hui. Donc par exemple, un sondage Odoxa pour le Figaro en janvier 2026, donc c'est tout récent, qui indiquait que 70% des Français estimaient qu'il y avait trop d'immigrés en France aujourd'hui. Si on pense qu'il y a trop d'immigrés en France aujourd'hui, la solution, c'est la remigration, donc je pense qu'on peut faire le lien. Et des sondages de ce type-là, il y en a eu des dizaines et des dizaines depuis des décennies. Le problème n'est pas dans la volonté des Français, mais dans la volonté des dirigeants politiques à suivre ce désir, en réalité.
Alors, ça me donne une transition, là. On va passer au sujet suivant, le sport.
Le sport C'est-à-dire le jet de pavé sur les CRS.
Exactement. Alors, on pouvait s'y attendre. Donc, samedi, la victoire du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions a déclenché des émeutes donc, un peu partout en France, et puis surtout à Paris. Donc, le bilan, c'est quand même 2 morts, 219 personnes blessées, 780 interpellations... Mais seulement, sur ces 780, 320 placements en garde à vue, donc j'imagine pour 24 heures. Donc là déjà, les personnes qui ont été placées en garde à vue, soit vont être gardées, on le saura demain, soit seront toutes libérées, et on n'en parlera sûrement pas beaucoup demain, mais ça mériterait d'être surveillé. Et donc 192 personnes blessées. Alors on a vu le député macroniste Karl Olive, ça c'était quand même assez phénoménal, grimper sur une voiture comme une espèce de racaille de cité. Je sais pas si
une voiture qui n'est pas la sienne, c'est ça qu'il faut...
Absolument, une voiture qui n'est pas la sienne. Bah, sinon,
il s'adapte à ses électeurs, c'est plutôt un modèle.
Et alors surtout...
Karl Olive est député de Poissy.
Ah bah oui, effectivement.
Là, qui est une ville où on produisait des voitures jadis d'ailleurs.
Ouais, ouais. Ah bah. Et où maintenant on produit des racailles. Mais enfin... Parfois. Donc là, en tout cas, voilà, j'ai aussi retenu les commentaires de l'ancien commissaire européen Thierry Breton. ne riez pas.
C'est très difficile.
Qui a quand même parlé d'un grand moment d'unité et de communion. Et j'ai trouvé que c'était assez bien vu. Ensuite, il a pris acte quand même du désastre et il a défendu les émeutiers en expliquant que c'était à charge pour nous de donner à ces jeunes l'amour de notre pays. Et vous ne saviez pas ça, Jean-Yves. Ben voilà, il a une solution.
Bah, c'est le discours qu'on tient depuis 40 ans.
Oui, voilà. Bah, justement, voilà.
Donc, vous oubliez la troisième partie.
Qu'est-ce qu'il a dit?
Il a expliqué que c'était à cause de la dette.
Ah oui, c'est vrai.
Faut pas déconner.
Ces jeunes gens sont des comptables, que croyez-vous?
C'est très sérieusement, il a sorti ça quand même. Hein.
Oui. Moi, j'ai tout un tas de questions. Voilà, comment peut-on analyser donc, ce que j'ai appelé les razzias de la CAIRA? Donc, est-ce qu'il faut plus de policiers les soirs de match? Est-ce que les jeux de babal donc, déclenchent chez certains habitants des réflexes violents comme ils ont déclenché chez mon chien? Est-ce que le football produit naturellement la violence? Faut-il instaurer des fan zones pour mieux encadrer les amateurs de foot? Est-ce qu'il faut lutter contre le hooliganisme? Est-ce qu'il faut y voir la révolte de jeunes supporters qui n'ont pas suffisamment accès aux biens de consommation? Et puis surtout, la question qui me semble la plus importante, est-ce qu'il faut, selon vous, interdire les ballons? Je sais pas, je pose des questions aux journalistes.
Mais ça n'a rien à voir avec le foot.
Ils sont sidérés. Mais non, mais c'est pas ce que je pense. Mais
je vous le dis. Ça n'a absolument rien à voir avec le foot.
Allez-y,
vous avez les mêmes Kevin et Mathéo qui sont là le 14 juillet et quand ils brûlent des bagnoles le 14 juillet, c'est pas pour fêter la France.
Vous êtes sûr?
Je crois pas.
Non, je sais pas, je pose des questions.
Voilà, avec le drapeau algérien, ils sont un peu schizophrènes dans ce cas-là. Mais pourquoi pas, Mais donc, non, ça n'a rien à voir avec
le foot.
Mais
c'est vrai que ça se produit pas avec Roland Garros ou la Coupe du Monde de rugby.
Oui, c'est bizarre.
Ça se reproduit,
mais parce qu'il y a beaucoup de sport que moi, la Coupe du Monde de rugby.
Alors, donnez pas des idées.
Parce qu'il y a naturellement beaucoup moins de monde, en fait. Ils savent même pas que Roland Garros existe. Et là, le Coupe du Monde de rugby, c'est leur cam.
Enfin,
c'est
pas difficile. Le football a l'air d'être criminogène. Je suis désolé.
Mais non, il a été criminogène.
Pas tout d'un coup.
Il a été criminogène. Et au Paris Saint-Germain, il y avait des ultras, pas des hooligans. C'est l'hooligan en France, on en avait vraiment très peu. C'est la culture vraiment anglo-saxonne. En France, on n'a pas beaucoup. Et heureusement, et d'ailleurs, les hooligans, ils se cassent la gueule entre eux. Ils donnent rendez-vous dans une forêt pour donner des coups de barre de fer. Donc, ça n'a rien à voir avec les racailles qui viennent piller les Franprix, quand même. Alors, il y avait un Monoprix à côté, ils sont allés piller un Franprix. C'est con. Ils ont même dans la Radia, ils ont des good shots. C'est assez effrayant. Rappelez-vous, pendant le Covid, ils pillaient des Lidl. C'est quand même aberrant, quoi. C'était quand même élève ton niveau, quoi. L'élévation sociale par le pillage, ça devrait exister. Mais le foot, il y a eu des problèmes, et notamment au Paris Saint-Germain, où en 2010, il y avait eu 2 morts. Résultat, le patron du PSG à l'époque, s'appelait Robin Leproux, a fait un plan Leproux. Et donc le plan Leproux, c'est ce que devraient faire les politiques aujourd'hui avec le plan Racaille, c'est-à-dire qu'ils ont dissous les associations, éliminé les gens, ils n'ont plus le droit d'entrer, terminé. Et résultat, il n'y a plus de violence liée directement au foot. Donc, quand il y a de la volonté, on peut régler les problèmes. Mais là, ça n'a rien à voir. C'est de la délinquance. C'est juste en fonction des zones où il y a des logements sociaux, vous avez plus de violence. Regardez à Lens. Lens a gagné la Coupe de France de football il y a 10 jours. Ils ont fait une grande fête à Lens, sauf que Lens, sociologiquement, n'est pas Paris. Résultat, vous n'avez pas eu les mêmes conséquences. C'est uniquement ça.
Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il y a moins de personnes d'origine immigrée à Lens?
Il y a moins de logements sociaux qu'à Paris, et c'est moins concentré, évidemment.
Laissez-moi traduire.
Étant donné que les logements sociaux sont squattés et donnés prioritairement aux personnes d'origine immigrée ou carrément immigrées, et parfois même sans papier, en clandestin avec des papiers comme on sait comment on les produit, évidemment, il y a un lien évident. Et pardon, vous voulez juste vous balader dans la rue les soirs, j'y étais le soir du match. Pardon, ils ne sont pas nés à Clermont-Ferrand.
Et quand on dit
ah,
voilà.
C'est pas sûr.
Non, quand on, non, mais trois générations, ils sont pas nés à oui. Clermont-Ferrand. Quand oui. on fait voilà toute la journée. Alors, je sais qu'il y a une culture racaille, et que comme. Voilà, et même des, le petit blanc se met à part dire voilà, mais là, c'est assez massif. Quand on sort le drapeau de l'Algérie ou du Maroc, a oui. priori, c'est qu'on vient de quelque part, ou qu'on a une double nationalité, ou qu'on a épousé une nationalité de grands-parents, de cousins, ou de ce qu'ils voulaient. C'est différent. Voilà, c'est le lien, il est là, mais après, de toute façon, personne ne veut le dire, quoi. Personne ne veut le dire, tout le monde le sait, mais les politiques vont surtout pas le dire. Donc là, on aura toujours pas réglé le problème.
Jean-Yves Le Gallou, comment vous analysez ces émeutes ?
Bah, je crois d'abord que effectivement, il y a des événements qui sont en quelque sorte l'occasion de rendez-vous. Mmh. Le 14 juillet, la Saint-Sylvestre et les grands matchs de foot. Et après, eh bien, le débordement se fait spontanément. Sur une base, il faut quand même appeler les choses par leur nom, sur une base ethnique. C'est-à-dire que ces racailles sont principalement issues de ces minorités ethniques et elles cassent en toute impunité. Pourquoi ? Parce que le pouvoir en place a peur d'une réaction en cas de... Bah, si on éborgne quelqu'un, si on tue quelqu'un, ils craignent de perdre complètement le contrôle... Puisque les populations dont sont issues la majorité de ces gens-là se solidariseraient avec eux. En tout cas, c'est ce qu'ils craignent. C'est ce qui s'était passé notamment lors de l'affaire de Naël. Ce qui fait que, par exemple, en matière de méthode de maintien policier, les méthodes qui ont été utilisées contre les Gilets jaunes sont beaucoup plus violentes. Il y a eu 25 éborgnés pour les Gilets jaunes parce que... Là, la consigne pour les Gilets jaunes, c'était pas d'éviter à tout prix qu'il y ait des blessés, c'était de faire des blessés oui. pour casser le mouvement. C'est exactement oui. l'inverse.
Parce que là, je dois dire que...
Et c'est le même homme qui est derrière, parce qu'à l'époque des Gilets jaunes, M. Nunez était ministre délégué à la police auprès de M. Castaner.
Et non, aujourd'hui, fait, c'est l'Allemand.
C'est ah, monsieur, oui. C'est monsieur Nunez. Qui est ministre de l'Intérieur. Donc, dans un cas, il dit aux policiers « Allez-y », et dans l'autre cas, il veut dire « Ne leur faites surtout pas de mal voilà. ».
Oui, parce que les 192...
C'est un problème fondamental.
Les 192 blessés ne sont pas du côté des émeutiers, contrairement à ce qu'on pourrait
non.
espérer.
Non, mais c'est ce qui était souhaité certainement par le pouvoir.
Oui, oui, oui.
Voilà.
Alexis Poulain, vous voulez prendre la parole ?
Oui, enfin, c'est un phénomène récurrent, effectivement. Alors, il y a la Saint-Sylvestre aussi, c'est tous les ans, hein, et on compte les voitures brûlées à chaque fois. Là, on avait eu les supporters anglais, enfin, voilà, c'est à chaque match également. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de... Enfin, il y a une volonté politique de ne pas avoir de volonté politique, c'est-à-dire d'éviter tout problème. Donc, on essaye de faire en sorte de tolérer la délinquance dans ces cas-là, comme si elle faisait partie de la fête. Ce qui est un discours qui est en fait inentendable hein, pour la majorité des Français. Mais quand on écoute Laurent Nunez ce matin, il assumait son bilan, il était très fier. D'ailleurs, oui. il y avait plus d'arrestations que l'an dernier, puisque mot pour mot, Emmanuel Macron a fait le même discours à l'Élysée avec l'équipe du PSG, puisque l'équipe du PSG a gagné deux fois. Il y a ces extraits de 2025-2026 où il dit exactement la même chose sur le fait que l'État va être très ferme, qu'il ne tolérera plus et que ça ne devrait pas arriver et que c'est pas ça le foot. Or, dans la tête de ces gens-là, le foot, c'est lié à ces émeutes et la délinquance est tolérée dans ces soirées-là. C'est quand même quelque chose de dingue. Et moi, je serais une compagnie d'assurance, je porterais plainte vis-à-vis de l'État pour une défaillance grave.
Ah, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, ben, pour tous les commerçants, notamment, parce que, en théorie,
oui,
ce genre
je parle
de...
des commerçants qui ont oui. des compagnies d'assurance, mais les compagnies d'assurance, je
mais
pense,
même pour
peuvent
le manque
faire
à
plus
gagner,
peur aux politiques.
Pour ouais. le manque à gagner.
Ah ben,
parce que
et bien sûr.
Tous les gens qui mais doivent fermer boutique, au lieu d'ouvrir grand les vannes en se disant, sur 24 heures, là, je vais faire un chiffre d'affaires d'une semaine, parce qu'il y a une fête, il y a une liesse, et en fait, ils se retrouvent avec les vitres explosées.
Enfin, c'est pas, bien sûr, c'est gênant pour les commerçants. Ce qu'il y a de dramatique, surtout, c'est que maintenant, on regardera les matchs à la télévision et que plus personne oui. ne descendra dans la rue, sauf les racailles. C'est ça, on
plus,
est en train...
Il faut souligner... pardon, parce que le match avait été avancé pour que ce soit un événement familial, justement,
oui,
pour que des familles puissent venir plus tôt. Donc même dans ce cadre-là, ça ne change rien. En réalité, les émeutes ont commencé immédiatement après la fin du match.
Voilà. Ça a commencé avant. Et ce sont des émeutes qui en plus, là, parce que certains auditeurs disent qu'il faudrait délocaliser le stade, il faudrait l'envoyer à Massy-Palaiseau ou à Poissy.
À 1900 km, là, il était le stade. Km,
donc, autrement dit, maintenant, il est convenu que le football est l'occasion d'une descente,
le prétexte,
oui, d'une partie de la population, oui, dans les beaux quartiers pour les ravager et expliquer. On a diffusé l'extrait ce matin dans Ligne Droite, français en tant qu'ul.
Il y a eu le fils du chanteur Khaled aussi, là, qui a salopé la statue de Jeanne d'Arc en disant « Pleure, fils de pute, la ville est à nous ». Ce qui était un message de
sportif. C'est pas un message de haine, il ne sera pas poursuivi vers les tribunaux, on est tranquille. C'est un message d'amour.
Mais il s'adressait à quelqu'un qui est hors champ et que, voilà, oui, qu'on n'a pas vu. Et que, voilà. Nous mésinterprétons tout ce qui est dit. Mais voilà, une fois plus, on est en train de priver les Français de n'importe quelle fête populaire. On est en train de priver les Français d'une présence dans la rue qui n'est pas autorisée, soit par l'extrême gauche, soit par les racailles. Voilà. Et donc, la rue appartient à tous ceux qui décident d'être contre le pouvoir ou contre la France.
Et est-ce qu'on n'a pas aussi, simplement, au-delà de privé, je laisse la parole à Xavier Onir dans une seconde, mais est-ce qu'on n'a pas, au lieu simplement d'être privé de fête, est-ce que ça n'est pas juste une petite conséquence? Parce qu'on a surtout des meutes de gens qui nous haïssent en tant que civilisation française et qui veulent imposer une forme... C'est un autre contrôle social que celui... du gouvernement avec la maîtrise des réseaux sociaux ou les impôts, je ne sais quoi. Là, c'est une terreur qui dit « Vous voulez faire la fête ? Eh bien, on va vous défoncer dans la rue si on vous croise et vous ne pourrez pas le faire parce qu'on a décidé que vous ne le ferez pas parce qu'on va saloper vos motifs de joie et on va simplement vous persécuter parce que vous êtes des ennemis. Enfin, peut-être est-ce que c'est moi qui surinterprète une vision de civilisation, mais je sais pas. Xavier Van Lierde.
Il y a à l'évidence une dimension démonstration de force, au moins implicite dans ces mouvements de foule et la façon dont elles se comportent. Et du reste, ils l'expriment eux-mêmes. Beaucoup, on a vu circuler sur les réseaux sociaux, beaucoup de ces émeutiers, car il ne s'agit pas seulement de délinquance, mais d'une forme d'émeute, déclarer « Paris est à nous, la France est à nous ». Donc ils se comportent, oui, comme une foule qui veut tester les capacités de résistance des pouvoirs publics, qui s'en prend systématiquement à tous les symboles. Parce qu'ils s'en prennent aux magasins, certes, ils font des razzias, certes, mais ils s'en prennent aussi aux symboles qui sont ceux de la France, ils s'en prennent aux pompiers, ils s'en prennent aux policiers. Il y a des scènes qui sont de l'ordre de l'humiliation. Sincèrement, je trouve ça assez inquiétant pour l'avenir, car j'y vois comme une foule étrangère qui se vit étrangère, qui teste un dispositif, qui se rend compte qu'en face, il n'y a pas grand monde, et qui pousse les limites toujours un petit peu plus loin. J'en parlais avec des amis qui sont âgés et pieds noirs, et ça leur rappelle quand même quelques mauvais souvenirs. Pourtant, de ce temps-là, l'État était quand même un peu plus vigoureux.
Je rebondis sur ce que vous dites, Xavier Van Lierde, parce que figurez-vous que moi, j'en ai parlé avec des amis qui sont sud-africains et qui m'ont dit que ça leur rappelait des émeutes extrêmement récentes où, d'un seul coup, on a une espèce de razzia, de bouffée de violence. On se venge sur le blanc d'un malheur quelconque et ils détruisent tout. C'est-à-dire, ils brûlent les entreprises, ils brûlent les commerces, les gens n'ont plus rien, plus rien, plus rien. Et là-bas, il n'y a pas d'assurance pour le coup. Donc c'est vraiment et c'est de la vraie persécution sur des bases ethniques. Oui. Maëlys Clozel, vous étiez encore à Porto. Comment est-ce que vous avez vu ça de loin ?
Mais écoutez, évidemment, j'étais assez attristée, mais finalement, j'y suis aussi habituée, hein, puisque à chaque fois que le PSG gagne ou perd, hein, d'ailleurs, parce que qu'il gagne ou qu'il perd, c'est exactement la même chose. Pendant la Coupe du Monde là qui arrive, là, j'imagine que ce sera exactement pareil, hein, que la France gagne ou pas.
L'Algérie.
Et l'Algérie. Là, voilà, donc,
j'ai une bonne nouvelle.
Ah bon?
Bah oui. Arthur. Parce que c'est comme ça se dit.
Enfin, je dis ça. Si ça se trouve, je pourrais parler aussi de l'Amérique centrale.
Non, mais l'Algérie, le Maroc, vous avez raison parce qu'ils sont qualifiés et qu'ils jouent. Mais la bonne nouvelle, c'est que comme ça se passe aux Amériques, un petit décalage horaire. Donc ils ont adapté à la France qui jouera à 21h. En revanche, l'Algérie et le Maroc, c'est 3h et 5h du mat.
Ah, c'est bien.
Je pense que ça sera une chance pour nous.
Oui.
Bizarrement,
une chance pour la France.
Voilà, finalement, la chance pour la France, c'est manifeste.
Je pense que, bizarrement, ça, je sais pas, ça, je sens pas leur émeute.
Ça pourrait. Écoutez, merci. Alors, qui voulait prendre la parole? J'ai perdu mon fil. Jean-Yves Le Gallou.
Il y a
Xavier. Rapidement, et ensuite Jean-Yves.
Ce que j'ai trouvé assez croquignolin surtout, ce sont les commentaires des politiques et notamment l'exercice d'équilibrisme de tous les centristes et des LR qui sentent bien qu'il y ait une attente de la part de la population et des Français d'un message de fermeté et qui ensuite nous sortent des messages de fermeté dignes des années 80 où on nous parle du hooliganisme, de problèmes de maintien de l'ordre, voire d'école, d'assimilation, d'exemplarité, etc. Et que maintenant on va entendre ce qu'on va voir parce que ça suffit. Or,
c'était il y a trois semaines, hein, pardon Xavier, mais il y a trois semaines, on nous a déjà dit que la République ne laisserait plus rien passer.
Et après, il y a eu la boule.
En réalité, on nous dit ça depuis 30 ans. En réalité, on nous dit ça depuis 30 ans, et c'est là le lien avec la remigration. Il suffit de regarder la façon dont ces foules étaient constituées et les pays dont ils se revendiquaient d'ailleurs souvent ouvertement pour comprendre que le lien avec la remigration est évident et qu'on pourra construire toutes les doctrines de maintien de l'ordre que l'on veut. La seule façon d'éviter de ce type d'événement et leur extension. D'ailleurs, on a vu que c'est 98, il y avait déjà eu des troubles. Ils sont plus forts aujourd'hui. La différence entre 98 et aujourd'hui, c'est pas que l'état d'esprit a changé, c'est que l'équilibre démographique a changé. Et donc, imaginez ce que ça donnera dans encore 20 ans, quelles que soient les doctrines de maintien de l'ordre. De même, une extension géographique, vous avez vu, en réalité, 71 villes ont été touchées. Donc, la seule solution pour éviter ce type d'événement, en réalité, c'est bien l'inversion des flux migratoires, c'est la reprise de contrôle de notre destin en réoccupant simplement notre propre pays. Il n'y a pas d'autre solution.
Alors, je vois l'œil approbateur de Richard de Chaise et Arthur de Vatrigan qui se disent, si je résume leur pensée de manière rapide, ils se disent, il ne faut pas plus de bleu, il faut moins de noir. Et je précise que je condamne fermement des propos que vous avez pensés, Richard de Chaise, parce que ce sont des raccourcis.
C'est un crime contre la pensée, ça.
Ce sont des raccourcis immondes que je condamne.
Merci, George Orwell. C'est un crime contre la pensée.
D'autant qu'il n'y avait pas que des noirs, et ce serait méchant et injuste de laisser croire qu'il n'y avait que des noirs. Donc, ravaler ces slogans caricaturaux. Mais en revanche, il y avait quand même aussi des Maghrébins, des Arabes, il y avait sûrement aussi d'autres nationalités, hein, peut-être même des Français de souche.
Peut-être des Blancs de souche intégrés, assimilés par les autres, contre-assimilés.
C'est le fruit de l'assimilation à l'envers. Hein.
Exactement. Ouais.
Tiens, est-ce que vous connaissez ça dans votre génération Parce qu'on a une jeune, alors il faut en profiter. Est-ce que vous avez des... Vous avez connu ou fréquenté des jeunes qui étaient assimilés à l'envers qui...
Notamment au collège. Bon, moi, pour tout vous dire, chers auditeurs, j'ai grandi dans un petit village de campagne, donc on était assez épargnés de l'immigration de masse et tout ce qui en découle. Par ailleurs, j'étais dans un collège là où il y avait un peu plus de cosmopolitisme, exactement. Donc oui, effectivement, il y avait un petit peu de tout. Il y avait ces jeunes blancs qui, en fait, littéralement, avaient honte d'être seulement français et qui allaient s'inventer des origines, alors que c'était des blonds aux yeux bleus comme moi.
Comme les ministres.
Voilà. Comme un certain Manuel Valls, effectivement.
Bruno Le Maire, Mélenchon. Et là, en ce moment, ils sont tous en train de chercher des cartes moitié d'Algéricains ou Marocains.
Et donc voilà, la mode en tout cas à l'époque, c'était d'expliquer qu'ils étaient, qu'ils avaient 1% de sang marocain, tunisien, algérien, ou que sais-je. Et directement, ça les rendait un peu plus intéressants parce qu'en fait, être seulement français, c'était la honte. Voilà, c'était la honte. Il fallait absolument ajouter un petit drapeau algérien dans sa biographie Instagram. Enfin, c'était littéralement ça en permanence. Donc après, il y a eu des jeunes comme moi qui ont toujours été fiers de leur patrie et fiers de dire qu'ils sont... moi, je ne suis pas que française, j'ai origine allemande aussi. Par ailleurs,
n'aggravez pas votre cabane.
Non, mais voilà, en tout cas, qui était fier aussi d'être seulement européen. Mais il y a malheureusement on ne sait pas vraiment la quantifier, mais en tout cas, une partie notable de cette jeunesse autochtone qui, manifestement, trouve plaisir à s'assimiler à l'envers. Voilà.
Et vous connaissez des jeunes qui vont à ce genre de manifestation? Alors, non pas pour tout casser, mais pour assister à des manifestations. Et si oui, comment est-ce qu'ils vivent? En gros, est-ce qu'on peut oser sortir aujourd'hui quand on est un jeune blanc et qu'on doit se balader à Paris un soir de match?
Ce qui est certain, c'est qu'ils le vivent de moins en moins bien. C'est sûr, j'ai beaucoup de supporters de football autour de moi. Effectivement, dès qu'ils sortent dans la rue, notamment pour célébrer la victoire du PSG ou d'une quelconque équipe française notamment, ou pas, parce que dans tous les cas, c'est toujours un prétexte pour tout casser pour les racailles. Donc voilà. Mais c'est sûr qu'ils sont de moins en moins heureux d'être dehors, puisqu'ils voient que finalement, ça ressemble plus à une foire d'empoigne qu'autre chose. Par ailleurs, quand c'est, par exemple, des victoires du match de rugby, là, bizarrement, bah, tout se passe bien. Voilà. Dans le sud-ouest, notamment, quand l'UBB a gagné récemment la Coupe d'Europe de rugby, bien là, bizarrement, voilà, il n'y a pas eu du tout de cas. C'était des copains qui buvaient de la bière ensemble et qui festoyaient de manière tout à fait naturelle et tout s'est très bien passé. Voilà. Donc, on nous dira que c'est le masculinisme, après, sinon, le motif. Voilà, le masculinisme. Mais bon, manifestement, en rugby, ils sont davantage virils, ils sont plus virils que les footballeurs et ça se passe très bien. Donc, le problème, il est toujours le même.
Arthur de Vatrigan.
Je ne mettrai pas le lien avec le rugby, encore une fois, parce que c'est vraiment une question de nombre. Je pense que les types ne savent même pas qu'il y a une Coupe du Monde de rugby ou une finale de top 14. Et je rappelle qu'il y a eu un mort l'année dernière, c'était à Dax, dans le sud-ouest. Mm. Bah, expatrié du rugby.
Il y en a encore eu un hier.
Oui, mais à Dax. Foot, ça n'existe pas. Oui. Voilà. Mais en tout cas, pour votre question sur est-ce qu'on peut encore sortir, moi, j'ai un fils, malgré moi, qui est supporter du PSG. Je souffre atrocement, étant donné que je suis supporter de l'OM, donc on s'insulte tous les jours. Bref, et donc évidemment qu'il est sorti dehors. Et c'est là, le pire, c'est qu'on raisonne, en fait, comme un politique et comme un préfet, on sait très bien où ça va se passer. Ah bah et donc, j'ai fait une cartographie, je lui ai dit, tu vas pas dans le 8e, tu vas pas dans le 16e, tu vas pas au trocard. Limite 15e, tu t'arrêtes à cette rue-là. Tout le monde sait où ça se passe. On le sait avant. Donc, à partir du moment où vous protégez vous-même, vous mettez vos frontières, quoi, voilà, en disant, bah, y a la frontière à cette rue-là, tu la dépasses pas, ça se passe très bien. Mais le drame, c'est qu'on le sait et qu'on anticipe, et le préfet le sait, et l'intérieur le sait. Et Nunez, qui est bien content d'avoir mobilisé 22 000 poulets, qui ont que ça à foutre, évidemment, un soir de match, bah, se félicite de ça. Mais ça veut dire qu'on a déjà entériné le fait que ça se passe mal et qu'il y aura de la violence et que c'est comme ça et que c'est pas grave.
Et même, vous avez entériné le fait qu'on commence à mettre en place de manière spontanée, quasi inconsciente, une forme de communautarisme au sein du pays et qu'en fait le communautarisme se met en place naturellement. Et alors là, on avait Nunez également, enfin monsieur Nunez, ministre, qui propose de multiplier la vidéosurveillance. Alors je sais pas, Xavier Van Lierde, est-ce que vous pensez que la vidéosurveillance peut sauver les parties de Babal?
C'est-à-dire que ce qui est totalement interdit, c'est le contrôle faciès, si vous voulez. Mais par contre, la reconnaissance faciale généralisée pour tout le monde, plus personne n'y voit de problème démocratique ou de mise en œuvre quand même d'une société qui ressemble quand même de plus en plus à quelque chose de totalitaire. Mais c'est fatal. Il y a plusieurs façons de faire tenir les sociétés humaines ensemble. La culture partagée, les mœurs communes peuvent en être une. C'est ce qui permettait à la France d'être un pays de grande courtoisie, de quiétude, et qui était aimé et admiré pour cela, d'ailleurs, dans le monde entier, y compris dans les rapports entre les hommes et les femmes. Et malheureusement, en imposant au forceps le multiculturalisme que l'on connaît aujourd'hui, la société ne tenant plus ensemble spontanément, naturellement, n'ayant plus de colonne vertébrale culturelle notamment, eh bien, on est obligé de lui mettre des corsets sécuritaires de plus en plus resserrés pour qu'elle tienne encore debout, qu'elle ne s'éparpille pas et que les gens n'en viennent pas aux mains en toute occasion. C'est assez triste. Moi, personnellement, ça m'exaspère que l'on en vienne à resserrer sans cesse le garrot pour espérer que les choses se passent à peu près bien. La caserne, c'est pas un idéal de société qui me fait beaucoup rêver, notamment pour faire la fête, mais même dans tous les aspects de la vie. Je reviens toujours à cette citation très très belle de Renaud Camus, où il dit en substance, nous ne voulons pas plus de policiers, plus de camarades de surveillance dans les hôpitaux, les synagogues, les églises et autres. Nous voulons le retour à la civilisation. Eh bien oui, nous voulons le retour à la civilisation. Une société qui tient par la civilisation, c'est quand même éminemment plus sympathique à vivre et plus beau aussi.
Arthur de Vatrigan.
Mais comme là, on est sur un principe de réalité pragmatique, encore une fois, comparons avec ce qui s'est fait dans le foot. Imaginez, la France, c'est un stade de foot. Pour résoudre les problèmes qu'il y avait dans le foot, dans les stades, ils ont foutu des caméras de surveillance partout. Et dès qu'il y avait un type qui était pris en train d'insulter, alors, tous les trucs appelés à l'aide, hein, homophobie, racisme, cris de singe, plus violence, les caméras de surveillance détectées, même un type un peu camouflé, il le chopait et le type était condamné expulsion à vie du stade.
Là, il faudrait agrandir le
stade. Bah oui, mais que ça soit expulsion de la France définitive.
Bah c'est pour ça que je vous dis,
comparé
à un stade de foot. Oui, sauf que la différence, c'est que c'est appliqué.
Oui.
Et c'est comme ça qu'ils ont résolu les problèmes.
Sérieux.
Ils ont résolu les problèmes dans les stades, c'est comme ça. Et
mais là, le problème n'est pas dans les stades. Le problème est des gens qui ne sont pas dans les stades.
Cher Richard, je vous dis, imaginez la France, c'est un stade de foot.
Oui, voilà.
C'est pareil,
ils ne sont pas dans les stades. Autrement dit, ils ont demandé de réimaginer les OQTF.
Je vous dis simplement que les caméras de surveillance, très bien, si on les repère et qu'on les fout dehors. Voilà. Et ça marche. On l'a fait dans le foot,
et
ça
après,
marche.
On, le problème, et après, c'est le premier, le on les enlève. Hein.
Bah, bah, disons qu'elles sont, elles sont obsolètes, et comme ça demande de l'entretien, à partir du moment où vous n'avez plus l'utilité, bah, vous les enlevez naturellement.
Oui, mais le pouvoir prend goût à ce genre d'outil.
Ah, Alexis oui, Poulain, est-ce que vous avez un point de vue sur la vidéosurveillance?
Si je oui, puis dire alors ça me fait assez rire parce que c'est toujours ce qui est mis en avant hein, par ceux qui ne veulent pas prendre de solutions politiques. C'est toujours le technosolutionnisme. On va dire, ah ben, on va mettre des caméras, c'est génial. Mettez des caméras de reconnaissance faciale, de vidéosurveillance pour des gens qui ont des capuches, qui masquent leur visage, qui font ça de nuit avec peu de lumière et qui vont en plus frapper les caméras. Ça ne sert strictement à rien dans le cas énoncé hein, des émeutes autour du foot. Ça sert simplement à dire on va fliquer tout le monde, mais pas les bonnes personnes. c'est uniquement ça. Donc, c'est vraiment la pensée magique du politique. On va foutre des caméras et vous allez voir, ça va être bien. Je pense que c'est une non-solution qui peut potentiellement coûter de plus en plus cher et surtout qui amène une société de plus en plus coercitive parce que étape par étape, on va vers le crédit social, on va vers l'identité numérique, etc. etc. C'est une société de merde, disons-le. C'est certainement pas ma vision d'une société heureuse.
Alors, je laisse Arthur de Vatrigan répliquer, mais juste avant, Xavier fait une incise. Qui ira sûrement dans le sens d'Alexis Poulain, comme ça, Arthur répond.
Par ailleurs, le sentiment d'impunité est du reste tel que ces gens filment leurs propres méfaits lorsqu'ils dévalisent. Oui. Voilà, et que donc il n'y aura même pas besoin de dépenser de l'argent à mettre des caméras.
Ils se filment eux-mêmes.
Ils se filment, ils se montrent dans leurs actes d'humiliation et de pillage. Donc si on commençait déjà par arrêter tous ceux qui se filment, ce serait pas mal. Mais on ne le fait pas, allez savoir pourquoi.
Arthur.
Oui, voilà, je voulais ajouter ça également. C'est vrai qu'on peut utiliser tous leurs images. Le problème, encore une fois, c'est qu'on en fait quoi ? Et que moi, sur la caméra de surveillance, vous avez une émeute, une manifestation pour les petits anges qui se termine en émeute ou un match de foot qui se termine en émeute. La plupart ne sont pas tous masqués. Si les caméras de surveillance me garantissent qu'on les chope, je veux dire, après, même dans un 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, le temps de l'enquête, les types, ils viennent tous, ils finissent tous devant le juge, ils se finissent expulsés ou en taule, on supprime les allocs des parents. Faites ça une fois à 100 000 personnes. Bizarrement, je pense que ça peut changer 2-3 trucs.
Alors moi, quelque chose me dit que les policiers se pointeront à 6h du matin plus rapidement chez Maëlys Clozel que chez ceux dont on parle.
C'est ça. Oui, ils ont l'habitude.
Donc c'est une question de volonté
politique. Et la justice, et l'autre volet qui est celui de la justice, parce qu'on peut avoir toutes les images de violence, de meurtre, etc. Reste la justice française.
Ah, mais je suis d'accord, il faut que la justice derrière assume.
Jean-Yves, en 30 secondes,
je suis d'accord avec ça. Oui, si la justice assume.
Le régime qu'on décrit, c'est la narcotyrannie. C'est-à-dire l'immigration débouche sur la délinquance débouche sur une volonté de contrôler la situation, et le contrôle se retourne sur tout le monde. Voilà, ça a été, c'est tout à fait bien documenté. La solution quand même implicite, à terme, c'est la déchéance de la nationalité des délinquants binationaux. À partir du moment où ils sont condamnés, eh bien, il faudra peut-être qu'ils apprennent à retourner vivre dans le pays d'origine.
Bon, alors pour reprendre la formule abjecte de Arthur de Vatrigan et Richard de Cesse, donc, il ne faut pas plus de bleu, il faut moins de noir. Je condamne évidemment, mais cette image.
Moi aussi, je me condamne. En plus, je suis le seul parasite.
C'est fini. Merci à tous d'être venus. Merci Richard de Cesse. Merci Arthur de supporter nos calomnies. Merci Jean-Yves Le Gallou, Alexis Poulain, Xavier Van Lierde et Maëlys Clozel. Et merci à Virginie d'avoir été avec nous pendant ces deux heures. Rendez-vous la semaine prochaine en ce qui me concerne et dès demain, et dès dans 5 minutes avec Richard de Cesse pour la suite de nos programmes.
Ça suffit maintenant.